l'Association pour le développement du documentaire radiophonique, ADOR, a le plaisir de vous présenter Blade Rumeur. De Julien Baroguel. Cette œuvre fait partie de Sentier Sonore, sélection de créations sonores documentaires à destination des radios locales.
Donc là, j'ai un paysage vraiment magnifique. Enfin, d'ailleurs, j'ai une carte postale de ce paysage-là.
Au loin, la plage, un petit marché.
C'est même pas une ville, je crois que c'est un village.
Oui, c'est la campagne, c'est vraiment les mamies avec le chapeau, vous savez, le bien rond, là, en tailleur, même pas, si sur les pieds, la croupie.
Beaucoup de gens qui parlent, qui dansent.
Tout le temps de la musique, enfin, très festif.
Et oui, il y a un karaoké.
Avec des klaxons aussi. Comme un brouhaha.
Ouais, c'est ça, ouais.
Dans le désert, au milieu des dunes et tout, c'est grand, enfin, on est au milieu de un peu de rien. C'est une odeur un peu lourde, mais en même temps, ça sent lourd, ça sent très sucré.
Il fait chaud, il y a des nuages, le ciel est très bleu.
Les dragons, les divinités.
Des bestioles partout, des grosses araignées. Je suis arachnophobe, ça m'arrange pas trop.
Il y a une salle de prière énorme, avec beaucoup de lumière.
C'est magnifique. Et on voit l'agitation, enfin, c'est vraiment agréable à voir, c'est très joli. Moi, j'ai un peu oublié ces paysages-là, c'est plutôt mes parents qui en parlent.
Blade Rumeur, un documentaire de Julien Baroguel.
Garçon, dépêchez-vous. Vous êtes déjà en retard, il est 58. Hein ? Bon, c'est à 8h. Vous savez que la sonnerie, elle est à 55. Première sonnerie, 7h55. Deuxième sonnerie, 8h. Allez, dépêchez-vous tous les deux. Les garçons, ce soir, c'est votre conseil de classe. Ben, parce que c'est moi qui vous garde.
À faire, c'est que tu vas t'approcher un petit peu. L'idéal, c'est que tu sois à peu près à 10 cm du micro.
Ok.
Ton prénom, c'est...
Moi, c'est Younes. Younes.
Alors, Younes, à la fin, on a Ness. Ness, j'aime bien. Mais il y a beaucoup de choses en trois lettres et avec un N et un S et même des fois un E. Le monstre du Loch Ness. Il y a Nas, un rappeur américain.
Il y avait déjà beaucoup de choses, donc j'ai rajouté une petite lettre. Ça faisait Nice, N-E-A-S, et je me disais en anglais, waouh, qu'est-ce que c'est stylé ça.
Alors l'histoire familiale, je vais pas en faire beaucoup de comptes, j'en sais pas tant que ça, en vrai, pour jouer sur l'honnêteté. Ma mère est ardennaise, mon père est tunisien, il est arrivé, il est né en France, non, il est pas né en France quand même pas, il est né en Tunisie. Et ça fait une diversité et ça fait aussi des fois un petit peu perdu, je pense. Ouais, je pense qu'on est un petit peu perdu.
Ici, on est un lycée dans lequel il y a beaucoup de gens qui ont des origines étrangères. C'est vachement un sujet de conversation. C'est vrai qu'il y a plein d'interrogations autour de ça et des choses auxquelles on parle pas forcément avec notre famille, mais dont on parle entre nous, quoi. Parfois, en me voyant, les gens pensent que je suis full française ou que je suis full arabe. Du coup, je demande à mes potes, vous pensez que j'étais quoi quand vous m'avez rencontré et tout, parce que j'ai l'impression que ça change des choses, en tout cas. J'espère qu'il va pas entendre ça, mais je pense à un camarade de classe cette année, dans les premiers jours. Je lève la main et la prof dit « Oui, Eva ». Et puis il se retourne et me dit « Mais t'es pas une rebeu, toi ?» Et je lui fais « Si ». Et j'ai vu la confusion dans son regard. Genre, vraiment, il y a un truc autour du prénom. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, pendant très longtemps, je ne savais pas que j'avais des origines étrangères. Surtout, je ne savais pas que j'avais des origines africaines. Et quand mon père, je devais avoir 7 ans, un truc comme ça, mon père m'a dit qu'il était africain. Je suis arrivée, mais t'es africain, mais t'es pas noir, genre un truc du style, tu vois. Parce que j'étais vraiment dans le cliché, quoi. Enfin, on m'en avait jamais parlé, donc je comprenais pas. J'étais en mode, mais c'est pas possible et tout.
J'ai toujours cherché à m'identifier à ma mère ou mon père. Et j'ai jamais réussi à distinguer de quel côté j'étais. Mais c'est quand même, je pense, important de savoir avec quel dos ça en joue. Et de se sentir représenté par un côté, parce que ben, on est entre deux camps, quoi. Et on aimerait en avoir qu'un seul, mais c'est pas possible parce qu'on renierait l'autre. Et ouais, on n'est pas ceci, on n'est pas cela, on est entre les deux, qu'est-ce que c'est que ça?
Non. Yeah, bro.
Ce sujet-là, c'est un sujet qui nous touche particulièrement, parce qu'on est tous issus de l'immigration ici.
Oui, moi je suis marocaine.
Même,
oui.
Moi je suis elle, marocaine. Elle est née en Espagne, oui. Par exemple. Elle, elle est née
suis...
au Maroc.
Moi je suis née au Maroc. Je suis née en Italie, ça va pas.
On est tous issus d'immigration ici. Fena. Sauf lui.
Sauf moi je suis.
Mais ça entraîne un peu le chien. C'est un bon quand même, et on se mélange quand même. Et il apprend plein de trucs, il sait quelques mots en arabe et tout.
Ouais.
Si moi je sais dire, je veux de l'eau.
Vas-y.
C'est Brit Elma.
Je m'appelle Amélie Do, j'ai 17 ans maintenant, je suis en première au lycée Rive Gauche. Mes deux parents sont vietnamiens, du coup ils sont venus en France, mon frère a 27 ans, du coup quelques années avant ça. Donc 30 ans entre guillemets qui sont là.
Je recule un tout petit peu le micro. La dernière fois tu m'avais dit, j'avais noté ces phrases là, tu m'avais dit c'est toujours moi qui demande, il y a toujours des non-dits. Et après tu m'avais dit ils ont normalisé la chose, ils se sont tassés.
Bah oui, c'est toujours, enfin on m'a jamais, par exemple je sais pas, j'ai pas de photos de famille par exemple à la maison de mes grands-parents. Enfin peut-être juste dans une salle, mais je sais même pas leur prénom par exemple. Et des choses comme ça, juste on me dit c'est tes grands-parents, point. C'est toujours cette question de d'où je viens. Et qui sont ces gens, en fait, que je vois littéralement dans le bureau tout le temps. On m'a jamais, par exemple, ouvert un livre et me dit « ça, c'est ci, ça, c'est ça ». Quand on voit, par exemple, le comparatif... Enfin, moi, je me comparais souvent à des petites filles dans ma classe, des amies, où là, elles savaient leurs arrière-parents, c'était qui et tout ça, alors que moi, c'était complètement flou, en fait. J'avais des bouts de récits, mais pas une entièreté.
Je suis jamais allée en Algérie. Ma famille, du côté de mon père, du coup, ceux que je connais, c'est parce qu'ils sont venus en France, ils sont venus nous voir. Et c'est vrai que j'ai un lien assez peu fort, entre guillemets. Je parle pas arabe. Mon père m'a jamais appris l'arabe. Culturellement, j'ai pas un lien très fort avec, avec l'Algérie. Voilà, après... je me sens quand même reliée à l'Algérie d'une certaine façon. Et je sais pas, c'est quelque chose qui me rend curieuse un petit peu parce que du coup, moi, j'ai pas ma propre vision de ce monde-là. J'ai l'impression d'être une mosaïque de tout ce qu'on me raconte, en fait. Mon père a enfin planifié un voyage en Algérie. Pour l'instant, on le repousse toujours, mais mon père compte nous amener en Algérie bientôt. Dans un voyage familial, surtout que mon grand-père a 80 ans et donc il aimerait bien qu'on puisse voir la maison et le pays avant que mon grand-père meure, quoi.
Depuis petite, j'y vais du coup avec mes parents, tous les ans à peu près. Sauf que plus je grandis, moins je prends plaisir à y aller. Du coup, je pense sincèrement que je vais plus y retourner. Ou peut-être pas pour voir... ma famille, mais pour aller visiter le pays, vu qu'à chaque fois, on reste qu'avec ma famille. Sauf que je l'ai... Enfin, c'est ma famille, mais je n'ai pas vécu avec eux. Les discussions sont compliquées par rapport à la langue. Je parle arabe, mais pas autant qu'eux, et ils parlent super vite. Et du coup, il y a quand même un petit décalage. Je trouve qu'on idéalise beaucoup l'Algérie. Enfin, c'est un lieu de vacances, du coup, quand on est petit. Mais plus je grandis, plus je vois vraiment, bon, à peu près dans tous les pays, mais du coup, les côtés négatifs. Et j'ai changé, du coup, mon regard par rapport à ce pays. Et du coup, visiter aussi d'autres pays, ça me tenterait plus que du coup aller en Algérie. Si j'avais le choix, je choisirais du coup un autre pays que l'Algérie.
C'est quoi? C'est
la tempura de légumes. Des beignets de légumes.
Oh, c'est bien bon ça.
Ouais, c'est pas mal. Écoutez, Mathieu, le guacamole, il pique un petit peu.
Il y a du guacamole.
Au début, mais à la fin...
Oh, c'est vrai, il y a du fromage.
C'est des beignets de légumes.
Vous allez bien? Ça va parfait, hein. Mmh. Merci bien, passez une bonne journée.
On me perçoit comme tunisien à la cantine. Parce que je ne mange pas de porc. Nous, on est l'équipe du poisson. Donc depuis la primaire, en fait, ouais, je suis tunisien. À la cantine. En dehors de la cantine, ouais, des fois, les gens se posent des questions. En fait, c'est en fonction de ma coupe de cheveux, hein, la plupart du temps, que je serais plus maghrébin ou plus pas maghrébin. Là, je suis maghrébin, là. J'ai laissé pousser les cheveux. Cette histoire de poisson, là, ça fait de moi un tunisien. Ça, c'est sûr. Tunisien, non. Non, ça fait de moi un musulman. Donc, je suis plus perçu comme... arabe. C'est binaire. On est une chose, on n'est pas une autre chose. Et donc, ouais, je dois être tunisien, je pense. C'est bizarre d'être lié à un endroit... sans y avoir nécessairement posé les pieds. Et c'est une relation un peu bizarre, ouais. C'est un petit peu flou pour moi.
J'étais dans un groupe de jeunes et il y avait un jeune d'origine maghrébine et il y a une des filles qui était là avec nous qui a eu des paroles vraiment très très déplacées, en fait qui s'est clairement moquée du fait que le garçon en question mangeait pas de viande parce que du coup c'était pas halal. Et on l'écoutait raconter ça comme si c'était normal et elle a fini par nous dire que ouvertement que chez elle, ils votaient FN, quoi, et qu'ils étaient racistes et qu'ils avaient pas honte de le dire, quoi. Ça a été très, très bizarre comme moment, un peu lunaire.
Et à ce moment-là, dans ma tête, il se passe un truc, je me dis, alors, soit la personne me perçoit juste française comme elle, et du coup, elle pense qu'elle fait juste une blague normale avec quelqu'un comme elle, et elle se rend pas compte de la vie, enfin, de ses propos, ou alors elle se rend pas compte de l'impact que ça a sur moi. Et puis je me dis, ou alors la personne a compris. Et du coup, là, c'est juste que la personne est en train de m'insulter en face, hein, en fait. Et du coup, des fois, il y a ce moment un petit peu gênant parce que tu peux pas, dire aux gens « Attends, quoi ?» Et du coup, bah, t'es là avec un petit sourire crispé en mode « Ah, c'est drôle, ça !» Et t'espères que c'était pas visé, quoi. Et puis souvent, c'est pas visé, je pense, mais juste les gens sont un peu trop à l'aise. Genre, quand j'étais enfant, parfois, on se moquait de mon nom de famille puisqu'il avait des consonances... étrangère. Et donc les gens faisaient mon nom de famille avec un accent genre hyper déplacé, des choses comme ça. C'est pas grave, mais c'est juste que les gens te rappellent parfois que t'as un côté genre étranger et tout. Enfin, voilà, moi je trouve que parfois ça peut être désavantageux. Après, je m'estime, j'ai de la chance parce que j'ai un prénom qui passe partout. Et j'ai une tête qui passe partout et j'ai une façon de me comporter qui passe partout. Donc ça me désavantagera pas trop, puisque surtout, enfin, je suis pas complètement algérienne, quoi. Enfin, j'ai une mère française, donc ça aide beaucoup.
N. E accent aigu. Ouais. I tréma avec deux points. I, deux points. S-I-S.
S-I-S. Naysis.
C'est un peu compliqué au début pour que les gens y retiennent. Eh bien, alors moi, je suis antillo-guyano-franco, je ne sais pas trop comment dire, mais voilà, je suis antillaise, guyanaise et française. Et donc, en primaire et en maternelle, mon objectif, c'était vraiment d'être comme tout le monde, comme toutes les filles, de ne pas me démarquer pour ne pas me faire embêter. Et donc, je voulais me débarrasser des accents pour pas qu'on se moque de moi, des choses comme ça. Et donc, l'accent, il a très vite disparu. J'ai aucun souvenir J'ai plus de souvenirs de parler entier, vraiment, ça, il est parti très vite. Étant petite, je pensais que c'était normal de devenir blanche. Pour moi, c'était l'idéal, la couleur de peau idéale, il fallait être blanche. Enfin, mes amies, elles avaient des beaux cheveux longs et blonds, et moi non. Et donc, je me comparais à ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, j'ai une petite sœur qui vit les mêmes choses que moi. Et en fait, j'ai l'impression de me voir quand j'étais petite, en fait, parce qu'elle commence vraiment à dire les mêmes choses que moi à mon âge. Enfin, elle a 6 ans. Et donc, la majorité de ses dessins, c'est des petites filles blanches et blondes. Et donc, du coup, j'essaie de lui poser des questions pour comprendre. Et je lui dis, bon, bah, Cléis, qu'est-ce que tu penses de tes cheveux? Comment tu te trouves, toi? Et elle me dit qu'elle se trouve moche, en fait, exactement comme moi, je disais.
Dans la cour de récréation, là, c'est vraiment les premières... là où j'étais confrontée au racisme. Ça peut être des enfants qui me disent « Ouais, Ching Chong, zat chinoise, tu bouffes du chien. » Donc des choses très violentes qui me fait poser la question de « Est-ce que je suis vraiment à ma place ? Ou est-ce que je suis une étrangère ?» Tu te rends compte qu'en fait, on attaque ton identité, ce que tu es. Ça te tue pas, mais ouais, bien sûr, ça te met dans des états pas possibles. Surtout aussi jeune. J'étais avec une amie, par exemple, à Paris, et j'ai reçu je sais pas combien de ni hao de ma vie. Moi, je l'ai intériorisé, le fait que je sois française. Mais oui, des fois, j'ai l'impression que ça rentre pas dans les oreilles de tout le monde, quoi. Enfin, je comprends pas. C'est quoi être français ?
De changer d'air complètement. En France, je trouve que ça me correspond plus trop, ça correspond plus trop à mes envies, à mes idées. Il y a déjà un passé colonial super compliqué. Et le fait aussi qu'on entend beaucoup parler de la religion, on nous catégorise directement avec la religion, alors qu'on est beaucoup plus que ça. On nous montre aucun bon côté, alors que je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. On nous met tous dans une bulle, et je me sens un peu oppressée. Et je trouve que la France regarde beaucoup les religions directement. Et du coup, pour trouver du travail, surtout avec le voile, enfin, c'est super compliqué de voir mon futur en France. Et du coup, j'aimerais vraiment aller dans un pays où c'est libre. Mais je ne sais pas vraiment comment me mettre face à eux, de leur annoncer du coup, que je veux partir de la France. Ça va être super compliqué vu qu'eux, ils ont déjà vécu
un exil.
Oui, un exil par rapport du coup à l'Algérie et aussi au manque de leur famille. Et du coup, je redoute un peu leur réaction. Mais je pense que ça va bien se passer vu qu'eux l'ont vécu. Du coup, ils sauront du coup peut-être me donner des conseils ou des choses comme ça.
Quand on est à la fois l'un et l'autre, on peut se permettre de grossir une caractéristique ou l'autre selon ce qui nous arrange. Du coup, c'est vrai que parfois, je me dis, quand je dis aux gens que je suis franco-algérienne, des fois, je me dis, oh, je suis une arnaque parce que, ben, en fait, je suis pas algérienne. J'ai pas de nationalité, je parle pas la langue, je suis même jamais allée dans le pays, j'ai pas eu une éducation qui est très ancrée dans la culture algérienne. Donc, des fois, je me dis, ouais, c'est vrai que je suis une arnaque parce que j'ai plus l'impression d'être française à 100% que algérienne. Et en même temps, je me dis que c'est plus facile pour moi peut-être de comprendre ce qu'on me raconte et de m'intégrer dans un groupe de rebeux parce que j'ai ces origines-là. Donc, c'est un peu ambivalent, en fait, comme impression, je pense. Déjà, si j'avais eu un prénom Ouais, un prénom arabe. Je pense que ça, les gens me verraient différemment peut-être parce que je sais que souvent, je sais pas comment dire, souvent, malgré mon nom de famille, on comprend pas forcément que je suis à moitié algérienne. Après, est-ce que ça changerait quelque chose? Je sais pas. Peut-être que les gens auraient plus d'a priori sur moi. Peut-être que les gens me font plus facilement confiance sans me connaître, enfin, en voyant que j'ai un prénom français. Parce que quand mes parents m'ont raconté ce à quoi eux ils ont été confrontés, ben ça m'a permis de comprendre que ouais, c'était quand même plus facile de passer inaperçu, on va dire, en France, quoi, quand on a un prénom commun, on va dire.
C'est assez triste parce que quand on va chez moi, je me rends compte qu'on a vraiment perdu notre identité antillaise. On fait plus du tout, même comparé à la sœur de ma mère. En fait, elle habite à Colomiers et vraiment nos deux maisons, c'est complètement différent. Chez nous, c'est vraiment... c'est un peu la honte de dire ça. Mais en fait, on a un peu perdu notre culture antillaise. On fait plus trop de... On n'écoute pas des chansons antillaises, on ne fait pas des repas traditionnels, tout ça, tout ça. Alors que la sœur de ma mère, ma tante, elle fait ça tout le temps. Donc, c'est... Des fois, quand ma mère va la voir, elle essaie de dire « Ah, mais moi, j'ai écouté tel artiste, t'as vu tel artiste, a sorti une chanson pour montrer qu'elle s'intéresse quand même. » Mais quand on est chez nous, c'est secondaire. Il y a des jours où j'ai l'impression, je ne sais même plus si je suis antillaise ou pas, Je côtoie jamais d'antillais, je fais jamais rien, je fais aucune activité qui a un rapport avec ça. Et surtout quand ma mère, elle me parle de tout ce qu'elle a fait, elle, quand elle était jeune aux Antilles, puisqu'elle a grandi là-bas. Elle faisait partie de groupes de groka. Le groka, c'est une danse traditionnelle que font les jeunes filles aux Antilles. Elle a été Miss Guadeloupe, elle a fait plein de choses pour sa commune, pour son île. Et donc des fois, je me dis, mais moi, je suis même pas là-bas en Guadeloupe, je vivrai jamais ces expériences-là. Des fois je me dis que si j'avais grandi en Guadeloupe, ma vie aurait peut-être été mieux, je sais pas.
Plus jeune, ma mère m'amenait beaucoup à la pagode, donc le temple, enfin l'église pour les bouddhistes. Et du coup, ma mère c'est elle qui tenait du coup les cours de danse, justement pour les Nouvel An et tout ça. On faisait des petits spectacles de danse et tout ça, avec les dragons qui passaient. Bref, c'était sympa. Sauf que. Moi, j'y voyais toujours un problème, parce qu'en fait, il y avait toujours cette chose-là de « fais-le parce que les enfants de mes amis le font ». Et donc, si tu le fais pas, ben, je suis la risée de tout le monde, quoi. C'était un peu chiant, tu vois, d'avoir une gosse qui parlait pas vietnamien et qui était pas bouddhiste, alors que tous les gosses faisaient la même chose. Et du coup, ouais, je pense que ça, elle a mal vécu, entre guillemets. Après, elle l'a accepté au fil du temps, quoi. Enfin, ça fait 17 ans que je vis avec elle. Je comprends la pression que ma mère a pu avoir vis-à-vis de ses pères. J'ai plus de recul maintenant.
Qu'on nous parle des branches de l'islam. Ah voilà. Je vais le lire dans ma tête, après je pense que je vais faire une lecture à voix haute.
Ok.
Mmh. Ok, je vais essayer de faire une première... Scission en deux grandes branches. L'islam se décompose en trois grandes branches qui regroupent d'une part les sunnites et les chiites, et d'autre part, infiniment plus minoritaire, les kharijites.
J'ai deux livres. Les titres ne font absolument pas rêver. Donc j'ai un livre, le Coran, et l'autre, l'islam pour les nuls.
Ce mot vient du mot sunna, qui signifie la tradition, c'est-à-dire les pratiques adoptées par Mohamed et les premiers musulmans.
J'ai acheté ça par... je me suis dit, il faut que je me renseigne. Parce que c'est un petit peu la honte de pas savoir tout ça, en fait. Faut que je m'y intéresse.
Le mot chiite vient du mot shiha, qui signifie la partie 2. Et renvoie aux partisans de Ali, qui considéraient que la direction religieuse et politique de la communauté musulmane devait toujours rester dans la ligne de Ali et de sa femme Fatima.
Je ne saurais pas encore me dire si je me considère comme musulman. J'ai grandi dans cette religion sans trop pour autant la connaître.
Division du chiisme en plusieurs sous-groupes, avec notamment celui des duodécimains, les partisans du 12e imam.
Je pense que quand on est avec des mains, on sait qu'on a des mains et on ne se pose pas la question de qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est pareil pour la religion, je pense. On est dans la religion, on grandit en se disant que c'est normal, et au bout d'un moment, on se dit « Mais tiens, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, la religion? Qu'est-ce que c'est que Dieu ?» etc. Et ouais, je suis en quête d'existentialisme. Oula, comment on dit? Alors là, je recherche. Je serai une période de recherche, et puis 16 ans, c'est peut-être l'âge, hein, c'est peut-être l'âge auquel on se dit... Bon, qu'est-ce que papa fait quand il se met à genoux devant Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il récite? Quel est le sens des paroles qu'il porte? Pourquoi il y croit? Tout ça, quoi.
Cet été, je suis partie au Maroc et que c'était la première fois que j'allais au Maghreb. Donc, même si c'était pas dans mon pays d'origine, bah, il y a quand même eu, j'ai envie de dire, une étape de franchie. Donc, voilà, c'était, je pense que c'est ce voyage au Maroc, c'est quand même quelque chose qui a fait avancer la, enfin, peut-être pas la réflexion, mais la vision des choses que j'avais, quoi. Déjà, c'était une colo, donc c'était pas avec ma famille. C'était un voyage de 3 semaines. On est parti de Marrakech, on est allé dans les montagnes de l'Atlas. Ensuite, on est allé vers le désert, vers Merzouga. On est remonté par Fès, Chefchaouen. On est arrivé sur la côte méditerranéenne. Ensuite, on est repassé vers l'Atlantique Nord. Ensuite, Atlantique Sud, et on est reparti à Marrakech. C'était très... je sais pas comment dire. En fait, ça m'a fait quand même quelque chose. Je pense que ce qui m'a fait le plus quelque chose, c'est quand j'ai passé la nuit dans le désert. En fait, on a fait une heure de dromadaire, ouais, une heure de dromadaire jusqu'au camp. Et en fait, bon, moi, c'était la première fois que je faisais du dromadaire déjà. Donc, j'étais un peu impressionnée. Mais bon, d'ailleurs, ceci dit, de moi-même, je ne referais pas du dromadaire parce que, enfin, je trouvais que c'était pas... Enfin, c'est pas que faire du dromadaire, c'est pas ouf parce que c'était super bien comme expérience, mais ça me gênait de nous voir en tant que troupeau de touristes sur des dromadaires comme activité divertissante, je sais pas, je trouve ça un peu gênant. Et quand on est à... Enfin, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que la famille de mon grand-père et tout, ils faisaient ça régulièrement, mais pas en tant que touriste et pas en tant que divertissement. Et je sais pas, il y avait un décalage, je regardais les gens autour de moi et je me suis dit, c'est bizarre comme situation. Ensuite, on est arrivé, donc on s'est installé, on a mangé le soir entre nous, on s'est juste... posé du coup autour de ce feu, et voilà, et il y avait d'autres touristes, et du coup les gens étaient contents, les gens dansaient, les gens rigolaient, tout, c'était vraiment pas mal, mais vraiment j'étais dans une phase d'introspection. Moi j'étais dans le sable et tout, et je me suis dit waouh, ouais, c'est, je sais pas, genre j'ai eu un moment de, je sais pas, d'envie de faire plus que ça, quoi. Je me suis dit c'est la première fois que je suis dans le désert, et mon grand-père, lui, ben, il a commencé sa vie dans le désert, et lui, ça lui évoque des souvenirs d'enfance. Donc pour lui, c'est un commencement. Et moi, c'est la première fois que je vis quelque chose que lui, il a dû
vivre. Je sais pas, je me suis sentie connectée à lui et je me suis dit, j'ai besoin de voir ce que lui il a vu, mais encore plus précisément, parce que là c'est un peu une illusion de... Enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu une illusion, mais je suis pas vraiment là où lui il a été, et du coup j'ai eu envie d'être là où lui il a vraiment été, quoi.
Et justement, ça en est où ce projet de voyage en Algérie?
Je pense que... Enfin, ça a bien reculé. Je pense qu'on n'ira pas avec mon père. Voilà. Enfin, en fait, c'est plus trop d'actualité pour plein de raisons. Après, j'irai probablement en Algérie un jour, mais peut-être pas avec mon père et tout. Donc, voilà.
Bled Rumeur. Un documentaire de Julien Baroguel. Avec la participation de Younes Mahamdi, Eva Hamdi, Amélie Do, Louisa Brahimi et Neizis Stanislas Calviac. Montage et mixage, Ludo Mepa. Un remerciement particulier à Dominique Burlot, professeur documentaliste au lycée polyvalent Rive-Gauche de Toulouse, ainsi qu'à Éloan Ledose. Merci à l'équipe et aux jeunes de la MJC d'Ampalo, à Thomas Pi, association Le Pavé, au Pradette, aux gens de la pagode de Cornebarieux, ainsi qu'à Emmanuel Courège, professeur d'histoire, et Christophe Bessac, proviseur du lycée. À Thomas Belé, Marc Latané, Yamour Gogdouman, Guizane Humo et au collectif La Disquette. Merci à tous les jeunes qui ont croisé mes micros, ainsi qu'à leurs parents. Un projet soutenu par le dispositif Été culturel, mis en place par la DRAC Occitanie.
Vous venez d'écouter Bled Rumeur de Julien Baroguel. Sentier sonore, sélection de création sonore documentaire de l'Association pour le développement du documentaire radiophonique ADOR.